J'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Hola, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute maintenant du Cani Info du jeudi 9 janvier 2020. Au micro jaune Laurent.
Oui, et au micro jaune Delphine.
Et nous avons donc raté le début d'année, hein, mais certaines travaillaient et donc étaient encore en train de roter leur jour de l'an. Donc nous revoilà quand même. Pendant que certains et certaines profitent de la chaleur du local pour des discussions d'après-manif, puisqu'en ce jeudi 9 janvier 2020, les grévistes, les manifestants, les manifestantes sont redescendus dans la rue, et ça sera évidemment une partie de ce Canu Info ce soir dont nous allons donc revenir hein, sur cette journée de mobilisation. Nous parlerons d'autres choses, on parlera du travail qui tue, nous parlerons aussi de la police qui tue, et puis nous irons voir du côté des petits profiteurs, hein, parce que tout se monnaie de nos jours est plutôt pas mal. Nous reviendrons sur la fin de l'impunité, peut-être pour les pédophiles. Et puis nous reparlerons police et gendarmerie, et peut-être de Carlos si nous avons le temps, mais nous verrons bien.
Eh ben, je vais ouvrir avec un bilan. Alors, je vais pas faire le tour de tout ce qui s'est passé en France et de partout sur ces mobilisations. Donc cette nouvelle journée intersyndicale, entre guillemets, puisque tout le monde ne participait pas, contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement sous l'égide du président de la République, M. Macron. Donc à Lyon, on était, alors le chiffre donné par la CGT, c'est 30 000. Je pense qu'on était voilà, aux alentours de 27 000, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire une journée aussi grosse que les deux autres grosses qui ont eu lieu en décembre. Hein, c'est du même ordre de grandeur. Donc une belle mobilisation. On a noté devant une présence bien plus importante cette fois-ci des avocats. Alors on sait qu'ils avaient déjà tenté de se mobiliser hein, en décembre. Il y a eu une journée morte le 5 décembre, justice morte très exactement le 5 décembre. Il y avait eu un appel à manifester le 17 décembre, mais ils n'étaient pas très visibles. Là, ils étaient plutôt devant, avec leur chasuble, leur robe, là, je sais pas comment on dit, leur habit de travail, leur bleu de travail qui est noir. Et donc, ils étaient plutôt visibles, avec une mise en avant intéressante. Ils appelaient aussi à faire des sortes de grèves au niveau de la justice, donc avec pas mal de procès, d'affaires qui sont repoussées pour mettre un peu la pression sur le gouvernement. On rappelle que les avocats ont ont un régime spécifique qu'ils autofinancent eux-mêmes, un régime autonome, et qui va disparaître sous les coups de cette réforme. Voilà, le cortège est plutôt pas mal passé à Lyon, avec comme d'habitude quelques petits échanges, quelques petites tensions avec les forces de répression, quelques jets de lacrymogènes et d'autres petits projectiles en échange, hein, puisqu'il faut échanger, c'est important l'échange dans la vie. On notera quand même le regain de tension à l'arrivée, comme d'habitude, à l'ancien hôpital de l'Hôtel Dieu, devenu une galerie marchande pour commerce petit bourgeois, puisque de sympathiques artistes avaient décidé de redécorer la façade avec des projectiles remplis de peinture qui étaient plutôt sympathiques, même si je trouve qu'il manquait un petit peu de couleur. On a eu une fois du rose à paillettes, des choses un peu intéressantes, là c'était que noir, mais c'était une belle redéfinition de cette façade bourgeoise, s'il en est. Forcément, quand ils ont fait ça, les forces de répression étaient un petit peu énervées, donc il y a eu quelques petites tension à différents moments comme ça, mais rien de bien différent de d'habitude, hein, la répression traditionnelle de la République version Emmanuel Macron. Voilà, alors en France, ça a mobilisé aussi. Alors les chiffres de la CGT à Paris font état de 370 000 personnes. À Marseille, c'est énorme, parce que là, on a un grand écart incroyable, puisque 22 000 personnes selon la police, enfin la préfecture très exactement, et 220 000, donc 10 fois plus, selon la CGT. Donc on sait que quand on est au sud, on amplifie un petit peu les choses, mais là, il y a un moment, il faudrait qu'il y ait des gens qui se mettent au-dessus, qui fassent des photos et qui comptent avec la densité de population, enfin qui fassent un truc un peu sérieux, puisque tout le monde a l'air ridicule, du coup, aussi bien les keufs que finalement aussi la CGT, ça dessert un petit peu tout le monde, ces chiffres aléatoires. Ce qu'on notera, c'est pas tant les chiffres, la somme totale en France, que j'ai pas vu, mais qu'on pourrait faire, c'est que cette journée, elle a mobilisé autant que les deux grosses qu'on a eues au mois de décembre, qui étaient tombées un mardi. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que la mobilisation ne faiblit pas. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la mobilisation ne s'amplifie pas. Et ce qu'on constate, une fois de plus, c'est que c'est quand même très majoritairement des gens issus du secteur public qui sont dans les rues, quelques petits éléments du secteur privé, mais le secteur privé, grosso modo, n'est pas en grève, là, même si on a les avocats qui étaient très présents, voilà, même si quelques raffineries sont perturbées, notamment celle qui est proche de chez nous, Fezin. On n'a pas de mouvement, on n'a pas de blocage de l'économie, on n'a rien de tout ça. Et on n'a finalement pas tant d'espoir que ça sur une issue positive avec un gouvernement aussi obtus qu'on peut avoir. Même si on a quand même quelques éléments qui peuvent nous faire plaisir, on a vu et entendu un des responsables de la CGC, le syndicat des cadres, sortir énervé de la rencontre avec le gouvernement en disant ils se foutent de notre gueule, ils nous mentent, tout est prévu à l'avance, on sert à rien. Pour énerver le syndicat des cadres, il faut quand même être très très fort. Macron, qui devrait s'appuyer sur ce genre de syndicat qui est normalement plutôt de la même couleur politique, il arrive à se les mettre à dos. Je dis Macron, c'est le Premier ministre, etc., toute la bande. Donc c'est assez incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Ils étaient d'ailleurs présents dans la manifestation. On notera bien sûr que les traîtres de la CFDT n'étaient pas là. On n'avait pas ce petit groupe en orange qui était venu la dernière grosse manif, puisqu'ils ont proposé une conférence des financements que le gouvernement s'est empressé de déclarer intéressante et qui va se mettre en œuvre. Et on sent très bien qu'ils vont arriver à négocier un truc horrible sur l'âge pivot, sur lequel ils se focalisent et qui est artificiellement sans intérêt, puisque plein d'autres critères interviennent. Et la réforme elle-même de transformation en régime à points est mortifère pour les pensions, sans question d'âge pivot déjà. Donc en fait, il faut pas séparer la réforme de la question du temps, de la durée de cotisation. C'est toute la réforme qu'il faut jeter, mais ça c'est un peu incompréhensible pour un militant libéral syndiqué à la CFDT. Bon, voilà. On notera quand même que les mouvements vont continuer. Donc demain, il y a une manif organisée qui devrait partir du boulevard Mermoz, très exactement, je crois, de la station de métro Mermoz-Pinel, si j'ai bien compris, à vérifier sur différents sites pour avoir l'info exacte. Ça partira à 11h et ça ira en direction du MEDEF. Le siège MEDEF lyonnais est dans le 8e, c'est pour ça que ça part du 8e. Et puis samedi, il y a la fameuse nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle qui est faite un samedi, parce que l'excuse c'est que il y a des gens qui peuvent pas faire grève et qui seraient là samedi. On va compter chaque fois que ça s'est passé comme ça, ces fameuses manifs du samedi, il y a moins de monde que les manifs des jours où les jours où les gens font grève. Donc l'argument que c'est parce que les gens peuvent pas faire grève qu'ils se mobilisent tombe à l'eau à chaque fois, mais bon, à chaque fois, il y a des tentatives nouvelles, donc on verra si cette fois-ci nous allons avoir 150 000 personnes à Lyon dans les rues. Puisque, on rappelle, quasiment tout le monde est perdant dans les simulations qu'on a sur cette réforme de la retraite. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce qui s'est passé. J'ai pas beaucoup d'autres infos supplémentaires. Je suis rentré très tard puisque la manif est arrivée assez tard, place Bellecour, le temps de finir de discuter, tout ça. La préparation était un peu courte, c'est une info.
Ce qu'on voit quand même, c'est que effectivement, Monsieur Macron tente de vouloir résister le plus longtemps possible. Là, on parle toujours de guerre d'usure, il joue souvent ce genre de déclaration. Mais c'est vrai qu'on sent que Monsieur Macron semble vouloir s'attaquer quand même à deux mastodontes qui résistent syndicalement. Et dans les luttes, c'est la SNCF et la RATP, deux structures que d'autres politiques ont voulu faire tomber avant de casser, comme on a pu voir avec la Poste, qui a largement changé ses pratiques défavorables.
Ouais, France Télécom aussi.
Mais voilà, on sent que la SNCF, c'est quand même un gros bastion de syndicalistes, de grévistes potentiels, et donc ça, c'est vraiment là l'entreprise que M. Macron et son gouvernement ont envie de faire tomber, très clairement. Enfin, je veux dire, donc l'idée, c'est de savoir si M. Macron va tenir encore longtemps, si du côté des grévistes, on peut tenir aussi encore longtemps. Là, c'est toujours un petit peu pareil. Et puis, quand on voit dans les raffineries, effectivement, c'est aussi des endroits où il y a souvent des grèves. Il faut savoir que c'est plutôt sur... Enfin, c'est moins dans les parties administratives, quand même, qu'on se met en grève. C'est plutôt sur des secteurs...
Oui, c'est les ouvriers, hein,
plus, oui, ou même des techniciens. Mais c'est des gens qui sont plus dans le côté manuel de l'entreprise, par exemple, chez Total.
C'est ceux qui bossent, en fait, hein. Les administratifs au-dessus, intermédiaires.
Il y a une décorporation, et c'est bien ça le problème. Mais on sent aussi que c'est les grévistes là qui sont dans l'usure. Enfin, ils se sont tapés combien de combats et de luttes ces 10 dernières années, en étant souvent un peu seuls finalement. Donc Monsieur Macron joue un jeu, vraiment une stratégie qui semble bien en place. Voilà, il y a eu les gilets jaunes, ça l'a pas fait quand même bien bouger, malgré les espèces de miettes que de temps en temps les médias veulent nous dire, allez, regardez si il a fait ça, non, en fait il a rien fait. Là, il essaye d'user maintenant une nouvelle mobilisation. Ouais. Je sais pas jusqu'où il va aller là comme ça.
Ouais, jusqu'à maintenant sa stratégie c'était de
rentrer dans l'art.
De rentrer dans l'art en disant regardez moi je suis fort et on sait hein, il ne pense qu'à la prochaine réélection. Sauf qu'il est en train de jouer un jeu tellement dangereux qu'il est en train de laisser Marine Le Pen gagner. C'est le risque qu'il prend que les gens arrêtent de voter pour lui parce que l'enjeu et le calcul politique qu'ils font c'est qu'il y ait toujours que deux candidats, la peste et le choléra que représente Le Pen et lui qui représenterait la lutte contre la peste et le choléra. Or, avec ce qu'il est en train de faire, une partie des électeurs qui auraient voté pour lui par défaut ne vont plus voter et le risque, c'est de laisser gagner Marine Le Pen. Et on a pas mal d'idées là-dessus, hein, pas mal d'exemples. On se rappelle qu'à un moment, La République En Marche ne propose pas de candidat contre le Front National, contre le Rassemblement National. Et qu'à plusieurs endroits, c'est comme ça. Donc il y a l'idée de Macron, du calcul politique, comme avait fait Mitterrand sous le PS, d'instrumentaliser l'extrême droite pour essayer de gagner. Et c'est jouer avec le feu, parce qu'un jour, l'extrême droite risque de gagner. Et là, c'est la voie que prend Macron d'essayer de faire gagner l'extrême droite en jouant au feu comme ça.
Alors c'est vrai qu'il y a des élections qui approchent là. Moi je trouve quand même qu'il jette un peu ses candidats quand même dans la merde, hein, parce oui, que
c'est pour
certes,
ça qu'il leur a conseillé.
Il y a toujours des gens qui aujourd'hui ne soutiennent pas les grévistes, trouvent que même ce sont des emmerdeurs et des emmerdeuses, que il faut réformer le système. On entend beaucoup hein, les gens veulent réformer le système mais on sait pas pourquoi, parce que nous aussi on veut le réformer hein, mais pas de la même manière. Donc ouais, ça me fait toujours sourire un petit peu. Le Figaro a fait un article La France est-elle irréformable? C'est toujours marrant parce que ça revient toujours cette idée qu'on pourrait pas réformer la France. Nous, on veut bien.
Non, puis les réformes, en fait, chaque loi qui est votée, c'est une réforme en soi. Donc il y en a tout le temps des réformes. Ça, c'est de la propagande de droite traditionnelle. Ouais. Mais voilà.
Sur les élections, juste pour finir, donc il est en train de jeter ses ouailles un peu en pâture hein, qui vont devoir dans des villes de moyenne importance se débattre face peut-être aussi à une présence locale habituelle. qui n'est pas passé forcément à La République En Marche, et même pour cela, il va falloir qu'ils se défendent sur leurs acquis. Hein.
Mais c'est pour ça qu'une partie des candidats soit enlèvent les logos La République En Marche, soit les mettent en tout petit. Il y a une espèce de honte à faire partie du parti présidentiel. Parti hégémonique, hein, puisqu'il y a un chef suprême et qui donne un petit peu les ordres, c'est pas du tout de la démocratie. On poursuit avec l'Inde qui se mobilise aussi.
Ça va être dans à peu près 12 mots. Pour vous dire que ailleurs aussi, là j'ai pris l'exemple de l'Inde, c'était hier, mercredi. C'est surtout dans deux régions qui ont une culture de la pratique syndicale et de la mobilisation, c'est dans la région du Bengale et du Kerala, donc c'est à l'est et au sud. Et il y a eu une grosse grève avec vraiment une manifestation importante avec sur l'idée de se battre contre la privatisation d'un certain nombre d'entreprises de services publics. Donc c'est annoncé par Monsieur Modi, hein, bien évidemment, qui est dans ses réformes aussi libérales à côté de son racisme bien prononcé, hein, sur toutes ses discours et puis tout ce qu'il est en train de mettre en place aussi en Inde. Donc là, il y a une mobilisation des services publics parce que le service privé, autant le service public a réussi à se développer sur des bases et des conditions de travail avec quelques acquis sociaux, sur le secteur privé, c'est un peu la galère quand même, hein, c'est aussi un pays en développement, donc de son activité, hein, un pays en développement d'une, comme on le disait avant, là c'est vraiment sur son activité qui ne cesse donc d'avoir de nouvelles parts de marché aussi sur des multinationales, et là du coup, et ben malgré tout le syndicalisme prend pas non plus de la même manière sur le privé, et donc les avantages évidemment ne sont pas là, donc il y a des luttes en ce moment pour sauvegarder le service public.
Alors on va parler un peu du travail, et c'est dans ma rubrique Le Travail Tue, on va faire un petit bilan 2019. Alors, deux petites remarques. La première, c'est que pour avoir les vrais chiffres des accidents du travail, il faut attendre les chiffres officiels des services statistiques de l'État. Donc en général, c'est un an et demi à deux ans après l'année en cours. Du coup, on est au courant, deux ans après, que telle personne, alors on n'a pas les noms, du coup, est morte dans un accident du travail. Il y a des gens qui trouvent que c'est caché la vérité, et qui essaye de récupérer les informations. Et donc il y a un groupe qui publie sur Twitter, sur Facebook et peut-être sur d'autres médias capitalistes et sociaux les informations qu'ils récupèrent dans la presse quotidienne régionale, puisque quand il y a des accidents du travail, c'est là où c'est publié, ça paraît pas dans le monde, hein. Et donc ils font une espèce dès qu'ils chopent un truc, ils le mettent dans leur base de données et ils le publient. Donc régulièrement, toutes les semaines, tous les jours, on a là il y a eu un accident du travail, là il y a un mort, là il y a un blessé, là il y a etc. Et là on est en janvier, ils font leur bilan 2019. Hein, donc l'INSEE et tout ça, ils prendront deux ans. Eux, ça va très vite. C'est compté tout au long de l'année et ils le disent. Alors, je rappelle que d'après le code de sécurité sociale, un accident du travail, c'est, je cite, est considéré comme accident du travail. Quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Voilà. Et donc ils ont fait le recensement. Alors, donc il en manque, forcément, puisqu'il y a ceux qui n'a pas donné lieu à un article dans la presse quotidienne régionale. Hein, donc on imagine qu'il en manque une partie. Mais dans ce qui est recensé, d'après ces personnes, 1056 victimes recensées, 644 blessés, plutôt graves, 412 morts. Et alors, à eux, à chaque fois qu'ils en récupèrent un, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un signalement à la ministre Muriel Pénicaud, qui répond jamais, qui s'en fout, bien évidemment, des morts du travail, mais ils envoient finalement. Ils en ont envoyé donc 861 cette année. Hein, c'est-à-dire presque 3 par jour. C'est pas mal, quand même. Hein, ils signalent à la ministre, tiens, il y a eu un accident du travail, là. Voilà. Bon, elle réagit jamais, ça lui passe loin au-dessus. Et du coup, on va faire un petit bilan. Qui c'est qui meurt, comment on meurt, etc. Alors, dans le top du top, pour mourir au travail, il faut que vous alliez bosser dans le bâtiment. Parce que dans le recensement, là, 93 ouvriers et artisans du bâtiment sont morts. Je fais les morts, hein, je ne fais pas tous les accidents. 46 agriculteurs. L'agriculture, ça tue pas mal, hein, notamment les machines agricoles. 45 les chauffeurs routiers. Bah oui, les chauffeurs routiers, accidents de la route, ils conduisent pendant des heures, voilà, etc. C'est forcément un métier dangereux. 38 ouvriers dans l'industrie. Ouvriers ou ouvrières, hein, je ne sais pas féminiser, je vais essayer de le faire au maximum. Les marins... 22. Alors, ça paraît logique. La pêche, ça a toujours été un métier dangereux. Ce qu'on note, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même pas dans les métiers qui tuent le plus. C'est le bâtiment qui reste le leader de la mort au travail. Ensuite, on passe... Alors, une logique, pour le coup, respectée, les militaires. Il y a eu 20 morts cette année dans les guerres néocoloniales là, qu'engage Macron et qu'avait engagé avant son prédécesseur. 17 bûcherons et lagueurs, c'est un métier qui est dangereux, ça on le comprend aussi finalement. 11 ouvriers agricoles, donc c'est différent des agriculteurs, hein, c'est ceux qui sont voilà, employés plutôt précaires. Une dizaine de livreurs, 6 pompiers, 6 keufs, ou flics, ou agents de police, enfin vous les appelez comme vous voulez. Et cette année, un joli score, 5 enseignants, quand même, recensés par ce truc-là. On notera quand même qu'il n'y a pas d'accident du travail pour cette année pour les présidents de la République. Il n'y a pas d'accident du travail pour un ministre de la République. Il n'y a pas d'accident du travail déclaré pour les parlementaires qu'on aurait récupéré. Pas d'accident du travail pour un patron du CAC 40. On se rend compte qu'il y a une certaine inégalité quand même dans les accidents du travail. Certains métiers semblent nettement moins dangereux que d'autres. Au niveau des âges, 10% entre 16 et 24 ans, 50%, 52% entre 25 et 49 ans et 38% au-dessus de 50 ans pour les âges. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on a pu récupérer là, à travers les articles de presse sur ces accidents du travail. Le travail aujourd'hui, ça reste une grosse cause de mortalité. Alors là, on a parlé des morts, on a parlé aussi du nombre d'accidents recensés, 1056. En fait, il y a très peu d'accidents recensés par rapport au nombre de morts, c'est à peu près le double. Pourquoi ? Parce que pour que ça mérite un article dans la presse quotidienne régionale, faut que ça soit un peu important. Des accidents du travail dans les entreprises, il y en a plein tous les jours. Des gens qui se brûlent et qui déclarent un accident du travail, par exemple. Ça apparaîtra pas dans la presse quotidienne régionale. Donc c'est pour ça que voilà, tout ce classement-là, ces statistiques, concernent essentiellement des victimes avec des blessés graves ou des morts, puisque malheureusement, il n'y a que ça qui donne envie aux journalistes d'écrire des articles.
Parce que là, en fait, le nombre de décès dans le cadre du travail et plutôt par secteur d'activité, c'est oui. Ça hein, l'idée. Et est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir le taux par métier ? C'est-à-dire, je me demandais moi si, par exemple, en fait, imagine ton employeur mettrait sur ton contrat de travail, nous vous informons comme l'article bidule du code du travail le prévoit, que vous avez 2% de chances de mourir. Tu vois, je veux dire, ça ferait quelque chose, non ? Ça serait, bah, tu vois.
Puisque tu sais que dans le bâtiment, il y a 102 accidents mortels, en transport 78, agriculture 62, industrie 42, l'armée 20, élevage sylviculture, élagage 21. Donc, tu sais, quand tu vas faire élagueur, ton risque il est important. Par rapport à notre métier.
Ouais, voilà, mais c'est vrai que voilà, ça c'est les choses qui feraient vraiment changer. On parle souvent en ce moment avec la réforme des retraites aussi de la pénibilité. Ça c'est une notion qui devrait rentrer quand même dans le cadre du travail réellement.
Je te rappelle que ça c'est une info pour donner des infos régulières sur les accidents du travail parce que l'État le fait pas.
Et ben ouais.
Mais que par contre quand les statistiques sortent par l'État, X mois ou X années plus tard, c'est beaucoup plus détaillé puisque eux ils ont accès à beaucoup aux données officielles de l'assurance maladie.
Mais comme beaucoup de données, on en fait pas grand chose derrière et c'est ça le problème parce que du coup ça fait pas évoluer. Alors s'il y a des secteurs sur lesquels ça a évolué,
elles sont accessibles à tout le monde les données. Ouais, je te rappelle que maintenant ils sont obligés de.
On nous oblige à bien des choses par les lois et qui sont parfois un peu agaçantes. Et là en fait voilà, il y a vraiment une manière de vouloir aussi protéger les travailleurs et les travailleuses dans le cadre de leur travail et de le mettre en avant et de le faire savoir aussi. Quand tu choisis un métier, c'est bien. Tu voulais parler encore de
la police tue. Ouais. Alors on va faire trois petites infos. La première, c'est la triste nouvelle. On va revenir donc le 26 octobre 2014, si vous vous rappelez. Rémi Fraisse, jeune militant écolo, il avait 21 ans, est tué par une grenade offensive lors des affrontements sur le chantier du barrage pourri là de Sivens. C'est un barrage pour permettre à l'agriculture productiviste de stocker de l'eau sans respecter quoi que ce soit d'environnemental ou de choses un petit peu intéressantes pour la nature. C'est à l'encontre de tout ce qu'on peut imaginer de correct quand on fait de l'agriculture ou de la gestion de territoire. D'ailleurs, ce décès a eu comme conséquence l'interdiction définitive des grenades offensives. Mais maintenant, on a les LBD, donc c'est bien, ça a remplacé. Mais comme il n'y a pas de mort encore, heureusement, avec un LBD, les LBD ne sont pas interdits. Donc la cour d'appel qui avait été saisie par la famille du militant a répondu et a suivi l'avis de l'avocat général et de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse en proclamant à nouveau un non-lieu. Donc le gendarme qui a tiré volontairement, hein, c'est pas un tir accidentel, c'est un tir volontaire, a été donc innocenté par la justice de la mort de ce jeune militant. C'est juste horrible, mais c'est habituel, dirons-nous. Alors l'avocat de la famille a tout de suite dit qu'ils allaient se pourvoir en cassation. En fait, leur objectif, c'est qu'après la cassation, ils savent très bien que la cassation, le gendarme va à nouveau avoir un non-lieu. C'est inévitable, deuxième procès, deuxième non-lieu, ils s'en sont sûrs. Mais une fois qu'ils sont passés devant la cour de cassation, ils vont pouvoir aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, et là, il y a plus de chances que la France soit condamnée pour l'assassinat, la mort de ce jeune militant. Donc c'est voilà, on en est là dans la progression, on l'annoncera quand il y aura sûrement la cour de cassation, mais c'est ça. D'ailleurs, l'avocat du gendarme a dit qu'il y avait 97% de chances, d'après lui, que le non-lieu soit confirmé en cassation. On en a bien conscience que la police est encore et toujours protégée par l'État et par la justice, malheureusement. Puisque on rappelle, un flic, quand il utilise une arme, il maîtrise l'utilisation de l'arme, c'est son métier, il sait très bien ce qu'il fait, et quand il tire dans la gueule de quelqu'un, c'est un acte volontaire, c'est pas un acte accidentel. D'ailleurs, il n'a jamais déclaré que le coup était parti tout seul, hein, le gendarme. Autre mort, alors très récent, puisque c'est arrivé dans la nuit, enfin hier soir, très exactement, puisque une jeune femme a été tuée par une voiture de police. C'est à Rennes, si j'ai bien tout saisi. Donc voilà, alors l'IGPN, la police des polices, vous savez, ça veut dire Inspection Générale de la Police Nationale, qui a eu une certaine époque condamné un petit peu les autres flics. Alors en ce moment, pas du tout. L'IGPN est dans une phase de protection totale de la police. Bon, enfin, en tout cas, voilà, les bœufs carottes, comme on dit, ont été saisis par le parquet de Rennes pour essayer d'établir avec précision les circonstances dramatiques de ce qu'il caractérise comme un accident, puisque quand un flic tue quelqu'un, c'est d'office un accident, et quelquefois, au bout de mois d'enquête, voire d'années d'enquête, on requalifie ça en autre chose, en meurtre. Alors pas en meurtre, hein, parce que c'est plus compliqué à démontrer qu'ils aient voulu tuer. Ou en même temps, c'est parce que la justice a pas de courage. Hein. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, alors comment ça s'est passé, c'est un truc assez simple, des gens descendaient du bus, un couple descendait du bus, ils ont traversé sur le passage piéton, une voiture de police est passée comme une folle, et elle les a renversés volontairement, hein, puisque sur un passage piéton, normalement, on doit ralentir. Hein, c'est le texte du code de la route, hein, qui précise que les piétons, quand on a un passage piéton, on doit faire attention car les piétons sont prioritaires, etc. Donc, les officiers, les personnels de la police dans la voiture ont décidé de pas respecter le code de la route, de pas ralentir sur le passage piéton, et donc ils ont chopé les deux personnes qui traversaient. On rappelle que un piéton est toujours protégé. Il n'y a aucune raison. Il n'existe dans la loi française aucune raison de ne pas laisser passer un piéton sur un passage piéton. Alors, bien évidemment, les flics disent, on est en intervention. On est allé vite. Alors, si vous avez déjà vu la police en intervention, moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, où ils ont failli renverser plusieurs cyclistes. En fait, ils en ont rien à foutre des autres, ils grillent tous les feux, ils respectent pas les distances de sécurité, ni avec les piétons, ni avec les cyclistes. Et effectivement, on comprend bien que ce qu'ils appellent un accident, mais c'est un acte volontaire de pas respecter la loi, peut entraîner la mort d'autrui. Donc on verra ce qui va être retenu par la police ou la justice. Il y a peu de chances que ça soit autre chose qu'un accident pour la police. On rappelle que le meilleur moyen de tuer quelqu'un en Europe et notamment en France, c'est d'utiliser la voiture, puisque il est très très difficile de faire requalifier un meurtre fait par commis avec une voiture en meurtre. Souvent, c'est juste considéré comme un accident. Donc, quand c'est la police qui le fait, c'est encore plus difficile. Hein. Et la dernière info, alors celle-là vous l'avez tous entendu, hein, c'est le fameux livreur de scooter de 42 ans, Cédric Chouvia, donc qui est mort à l'hôpital dimanche dernier, 48 heures après avoir fait un malaise cardiaque lors d'un contrôle par les forces de police parce qu'il conduisait en téléphonant son scooter. Donc l'asphyxie, il a été effectivement asphyxié et l'autopsie a démontré qu'il y avait eu une fracture du larynx. Donc fracture du larynx, c'est parce que les flics l'ont mis à terre et l'ont étouffé de force. Alors il y a plein de vidéos qui sont sorties qui montrent qu'effectivement la police appuie sur lui et fait tout pour que pour que ça se passe mal.
Alors ça s'appelle le plaquage ventral, un truc dans le genre. Et en fait c'est une méthode d'interpellation d'un individu.
Ouais, qui a tué déjà pas mal. Hein.
Ouais.
C'est une belle méthode.
Et qui est remise en question souvent d'ailleurs.
Ouais. Donc c'est une belle méthode pour tuer les gens, grosso modo, puisque a priori ça entraîne régulièrement des complications, voire la mort. Donc la famille aurait voulu que la justice qualifie, c'est ce que je disais quand je disais meurtre tout à l'heure, ce que j'entendais, c'est violence volontaire ayant entraîné la mort. Souvent, on imagine ça, le flic qui tire volontairement dans quelqu'un, c'est bien un acte volontaire et ça entraîne la mort. Donc, on aimerait que la police soit poursuivie comme le commun des mortels pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Or, bien évidemment, c'est pas le cas, puisque la justice la poursuit pour homicide involontaire. Donc, homicide involontaire, ça veut dire c'est un accident. Voilà ce qui est arrivé. Or, un accident, c'est quand on fait quelque chose sans le contrôler. On perd le contrôle de sa voiture, on glisse, on tombe, on pousse quelqu'un en même temps, etc. Là, ce sont bien des actes volontaires et la famille se bat avec l'avocat pour essayer de faire reconnaître ce côté volontaire. Et comme on l'a dit juste avant pour la voiture et comme on pourrait le dire pour Rémi Fraisse, comme on a pu le dire pour d'autres, il est très très difficile de faire reconnaître par la justice que mettre en joue quelqu'un, lui tirer dessus, lui sauter dessus, le compresser et le tuer, ce sont des actes volontaires. Pourtant, on ne voit pas pourquoi le policier il n'est pas forcé à faire ça. Hein. Mais la justice reste du côté de la répression et des forces de répression. Du coup, c'est très très difficile. En tout cas, la bonne nouvelle du jour, c'est que le défenseur des droits, Jacques Toubon, ancien militant de droite, qui depuis s'est trouvé une conscience de gauche, a décidé de saisir, comme il dit, d'office, de cette affaire pour essayer de dire les vraies circonstances du décès de ce livreur. Et donc il va ouvrir une instruction et on en saura un peu plus parce que quand le défenseur des droits saisit, au moins on a une info, ça passe pas en justice, mais on a les circonstances un peu exactes qui sortent, puisque l'IGPN en général donne tout sauf ce qui se passe réellement ou ce qui s'est passé réellement. Voilà pour les infos sur la police qui tue en France, c'est les infos du jour, mais il y en a tous les jours.
Oui, pour te répondre à ce que tu disais tout à l'heure sur l'accident, hein, quand c'est la police ou la gendarmerie, c'est ce que dit l'avocat du Baqueux qui a été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant entraîné une interruption de travail de plus de 8 jours par personne dépositaire de l'autorité publique, qui dit qu'en fait, dans le cadre de cette enquête, il faut une expertise pour voir s'il n'y a pas eu une défaillance du matériel, c'est-à-dire que vérifier si ce policier en fait n'a pas subi une défaillance de son arme et que c'est pas, tu vois, voilà, donc c'est exactement
c'est
ça.
C'est pour quelle affaire tu parles?
C'est une affaire qui a eu lieu, alors ça s'était passé pratiquement il y a un an, c'était le 12 janvier 2019, c'était à Bordeaux et c'est Olivier qui s'est pris un tir de LBD dans, et voilà, et donc
mais c'est la faute de l'arme.
Ah bah c'est l'avocat voudrait qu'il y ait une expertise. Il dit pas que c'est la faute, il voudrait qu'il y ait une expertise pour s'assurer que quand même ce fonctionnaire de police très affecté qui avait des bonnes notes et tout, comment ça tout ça a pu se passer, donc c'est forcément la faute. Alors, je sais pas forcément, c'est pas ce que l'avocat il dit, mais quand même, il faudrait vérifier si c'est pas l'arme qui avait un souci.
Parce
qu'une fois
de plus,
a visé Olivier.
Un tir volontaire, et ils veulent pas le reconnaître, en fait. On a toujours ce problème.
Juste pour dire, Olivier, il est hémiplégique aujourd'hui. Enfin, je veux dire, quand même. Mais bon, voilà, il y a là, pour une fois, il y a quand même un fonctionnaire d'État, toi, qui est mis en examen. Voilà.
Mais là, le flic pour Fraisse, il a été mis en examen. Hein. Il a non-lieu à chaque fois, donc ça sert pas à grand-chose. On rappelle que les assassins de Malik Oussekine ont pris très très peu. Pourtant, ils l'ont tué. On était en 87, un truc comme ça.
Et alors, on va rester un petit peu dans la notion quand même du travail. Vous savez que monsieur Philippe, Édouard Philippe, notre grand premier ministre, a redit ce qui avait déjà été dit par tout le monde, je pense qu'on peut remonter assez loin, c'est que les grévistes de la SNCF et de la RATP qui se mettraient en arrêt maladie pour faire la grève, ça les bardait. Donc c'est pas la première fois qu'on menace des manifestants, des manifestantes de ne pas être là en grève, mais en arrêt maladie, ou alors de vouloir freiner la productivité avec un petit arrêt maladie. Alors là, il y a un truc qui est dans toute la presse, hein, peut-être que vous l'avez raté, je ne sais pas, donc c'est pour ça que je vous en parle. Puis je trouvais que ça tombait bien, cette affaire, en plein milieu de la réforme des retraites, et puis les manifestations. Il n'y a pas de petit profit, puisqu'il y a une entreprise allemande, alors soit Dr. Hansa, Kananse, qui dont le siège est à Hambourg, a lancé un magnifique site qui a fait beaucoup, beaucoup causer, qui s'appelle amremaladie.fr. Alors tout de suite, je vous explique, le fondateur, il est avocat. Il n'y a pas de petit profit, je veux dire, c'est pas une bande de médecins, de personnel soignant qui se sont dit, tiens, on va ouvrir un site sympa. Et donc, c'est vachement bien, à tel point que MG France, qui est le premier syndicat de médecins généralistes, a expliqué, en s'énervant, que ça ressemble à acheter une pizza, puisqu'en quelques clics, tu peux avoir un arrêt maladie. Alors,
non.
C'est un peu plus compliqué que ça. Bien évidemment. Alors, MG France, a quand même, ils sont allés loin dans leur communiqué, puisqu'ils ont dit que c'était comme des pizzas, et que on avait un dixième arrêt de travail gratuit, tu sais, comme quand t'as une carte où à la fin t'as une ta pizza gratuite.
Ah mais c'est génial.
Alors en fait, comment ça se passe? Ça se passe que tu te rends donc sur ce site, hein, arrêtmaladie.fr, tu remplis un formulaire où tu expliques tes problèmes, tes symptômes, et ensuite tu vas avoir une téléconsultation. L'idée c'est qu'ensuite tu puisses, avec un appel vidéo, rencontrer un médecin à distance, donc, et qui va te faire un arrêt maladie qu'on va t'envoyer par PDF. Tout ça est bien évidemment prévu, bien fait, sécurisé, nous explique-t-on. Donc ensuite, tu as ton petit arrêt maladie, hein, que tu vas recevoir, et tout est parfait. Alors, ça a fait râler, bien évidemment, puisque là, on dit, chez les médecins généralistes, mais quand même, il faut voir les gens, et puis voilà. Alors, ils ne sont pas dans l'égalité, hein, dans cette entreprise allemande, puisque, en fait, tu peux avoir une téléconsultation et tu peux faire un certain nombre de prescriptions, et donc l'arrêt maladie. Alors, normalement, la téléconsultation, ça se passe dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Vous savez, vous avez un médecin qui est votre médecin traitant, qui est renseigné, que vous devez donner quand vous allez voir certains spécialistes. Et normalement, cette téléconsultation, elle va passer par votre médecin traitant. Sauf qu'il y a des exceptions, c'est-à-dire les situations d'urgence, ou si t'as pas de médecin traitant. Donc du coup, ça ouvre la porte. Parce que situation d'urgence, en général, t'as besoin d'un arrêt maladie assez rapidement parce que t'as une gastro, par exemple. Hop, tu vas normalement donc sur arrêtmaladie.fr. Et puis, tu vas dire voilà ce qui t'arrive. Et puis, si le médecin le juge nécessaire, va te faire effectivement ton petit arrêt maladie. Ça fait évidemment râler donc du côté des médecins généralistes. Mais évidemment, le truc qui râle le plus, c'est la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, la CNAM, qui voit pas ça d'un bon oeil, parce que tout ça est bien évidemment remboursé. C'est-à-dire que tu as une téléconsultation médicale, donc tu vas payer et tu vas avoir ton remboursement. Jusque-là, pas de souci pour a priori pour la CNAM. Mais évidemment, l'arrêt maladie participe pas trop à l'effort de guerre pour contenir les caisses de l'assurance maladie. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Donc ça fait râler, la CNAM va agir. Ça fait un peu rire en même temps parce que franchement, il fallait y penser. C'est bien pensé, quand même. Le capitalisme, moi je trouve, est très ordonné quand même.
Alors, on va parler un peu de choses beaucoup moins drôles, puisque j'avais intitulé cette rubrique Pédophilie, la fin de l'immunité, point d'interrogation.
De l'impunité.
De l'impunité, voilà. Et on va revenir sur cette affaire Mats Neff, un mec dont je n'avais jamais entendu parler avant cette
affaire.
Parce que
tu lis pas des livres sans images.
Mais attends, je vais te donner les trucs, tu vas comprendre pourquoi on n'en a jamais, on peut très peu entendu parler, voire jamais.
Là, c'est quand même quelqu'un qui avait sa petite. C'est sa petite success story.
Bah pas tant que ça. Alors là,
un peu quand même dans certains milieux parisiens. Peut-être.
Ouais, peut-être. Alors Gallimard et la Table Ronde, qui sont toutes deux filiales d'un groupe qui s'appelle Madrigal, ont retiré les livres de Mats Neff de la vente. Et aujourd'hui, c'est les éditions Léo Schier qui ont à leur tour décidé d'arrêter la commercialisation des livres de Gabriel Mats Neff. Donc il y a deux ouvrages concernés, il y en a un qui a un titre qui Hein, ça s'appelle les moins de 16 ans. Ça laisse entendre des trucs. Putain, c'est incroyable qu'on ait laissé des trucs comme ça quand même. Et le deuxième, c'est un des journaux qu'il a écrit, un journal. Il s'appelle Les Carnets Noirs 2007-2008. Donc, ils sont retirés. Alors, l'éditrice de la responsable dans les éditions Léo Schir dit, de toute façon, c'était logique. Nos livres sont distribués par Gallimard. Gallimard a retiré les livres de Matzneff de la vente. On fait pareil. Donc c'est bien, ça intervient au lendemain de l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol sur mineur de moins de 15 ans, suite à l'apparition du livre qui est paru il y a quelques jours, qui s'appelle Le Consentement de Vanessa Springora, qui raconte, alors les médias disent l'emprise prédatrice de l'écrivain qu'il a eu sur elle entre 13 et 15 ans, enfin bon voilà, il l'a manipulée, il l'a violée, hein, on va dire ça comme ça, ça sera plus réaliste un petit peu. Donc voilà, hier la police est venue... est venu au siège de l'éditeur perquisitionner et récupérer quelques exemplaires des livres à titre de preuve dans le cadre de l'enquête. Il n'avait pas lu les livres non plus. Alors en fait, maintenant je vais te donner les chiffres et tu vas voir qu'en fait, je comprends qu'on n'ait jamais lu ces livres. Donc il y a tout arrêt de commercialisation, tout ça. En fait, il est beaucoup plus connu maintenant qu'avant, et c'est normal, et il vendait pas beaucoup. Donc, les moins de 16 ans, ce fameux livre qui a un titre horrible, il en a vendu 1400 exemplaires depuis sa sortie il y a 15 ans. Ça fait quand même pas beaucoup. Le volume de Les Carnets Noirs là, de 2007-2008, donc de son journal, il en a vendu 600 exemplaires. Son dernier livre, qui s'appelle L'amende de l'Arsenal, publié en novembre 2019, 800 exemplaires ont été mis en place par Gallimard. Je sais pas s'il en a vendu beaucoup. Donc voilà, c'est normal qu'on le connaisse, qu'on n'avait pas entendu parler de lui. À l'époque de cette affaire, des gens qui défendaient une certaine forme de pédophilie, hein, on va en reparler tout de suite. Bon, bah, de toute façon, nous, on n'était pas nés, hein, donc on n'était pas en âge de comprendre, en fait, les enjeux et tout ce qui pouvait se passer autour de cette impunité, cette tolérance qu'il pouvait y avoir envers ces pédophiles, sous prétexte qu'ils aient du talent pour écrire. Alors, je ne sais même pas s'il a du talent pour écrire, ce gars, mais, non, mais voilà.
Et... il a écrit ses mémoires en 14 volumes.
Oh putain.
Il a 83 ans. Fuck. Non, mais je dis que voilà.
14 volumes. Ouais. Marc, s'il raconte tous les petits viols et tous les trucs qu'il a fait, il y avait
il raconte
de quoi
parce
dire.
Quelle horreur. Du consentement raconte qu'il était un prédateur aussi en Asie. Et lui-même a raconté ça dans des livres aussi, où il allait voir les gamines en Asie. Voilà.
Ouais, horreur. Et Le Canard Enchaîné a fait un truc super bien. Bah, ils font toujours des trucs super bien, vous me direz, mais ils ont ressorti une interview. Alors, en fait, ce qui s'est passé, je pense, et c'est ça qui les a énervés, Le Canard Enchaîné, France 2 a diffusé une émission consacrée à Françoise Dolto récemment. Mais une émission pas du tout réaliste, où Françoise Dolto, c'est cette prêtresse, cette référente de la psychanalyse pour les enfants, de la pédo-éducation, enfin tout ça là, donc une disciple de Lacan, toutes ces choses voilà, que vous connaissez sur les psychothérapies pour l'enfant, beaucoup sur l'éducation aussi de l'enfant, etc. Et ben, ils ont jamais parlé de tout ce qu'elle a pu, Françoise Dolto, faire sur les femmes battues, la pédophilie, l'inceste. Et ça a un petit peu énervé Le Canard, du coup ils sont allés chercher, et on rappelle qu'elle a signé en compagnie de Matzneff, de Sartre, de Michel Foucault et d'autres à l'époque, en 77, cette fameuse tribune qui demandait un assouplissement du code pénal sur les détournements de mineurs. C'était quand même avec le recul, c'est inimaginable, mais on n'a pas bien vécu cette période-là pour comprendre l'ambiance, puisque ça devait être accepté, puisque c'était passé à l'époque. Mais voilà. Et alors, ils nous ont fait un petit florilège d'une interview de Françoise Dolto, donc en 79. Je vous en lirai plein d'extraits, c'est absolument apocalyptique. Donc c'est dans le numéro 44 du journal de Gisèle Halimi. Ça s'appelle Choisir la cause des femmes. Donc, et à savoir que tout ce qu'elle dit, en fait, on le retrouve dans un des ouvrages qui s'appelle L'enfant, le juge et la psychanalyse de Françoise Dolto, édité en 99 chez Gallimard. Donc la journaliste lui pose des questions et elle répond. Elle dit par exemple, je commence doucement, en attendant que les mentalités changent, Alors on lui parle, c'est une question, elle visite en fait une maison pour les femmes battues, et la journaliste se pose des questions sur le problème des femmes battues, etc. Elle répond, en attendant que les mentalités changent, les maisons pour femmes battues sont utiles. Donc on se dit, bon non, ça va pour l'instant, et après, mais à mon avis, cela ne résout rien. J'ai vu une de ces femmes, absolument perdue, incapable de trouver à s'occuper, même de ses enfants qui sont avec elle, complètement soumise à une assistante sociale du lieu. Et alors là, attention, on comprend qu'un homme marié à une telle femme, qui attendait d'elle qu'elle fasse ce qu'elle avait à faire, en vienne à lui taper dessus en espérant la faire changer. Or, elle est incapable de changer. C'est une infirme. Il y en a d'autres dans ce cas-là. Et la journaliste reprend, et vous semblez justifier le fait que l'enfant et la femme soient battus par quelqu'un de plus fort. Elle répond, Dolto, je ne justifie rien, mais je dis que c'est le mari qui doit être aidé et non la femme battue. Il faut dire au mari, vous ne pouvez pas vivre avec cette femme. Elles sont incapables d'entreprendre quoi que ce soit. Elles poissent leur mari, mais ne sont rien pour eux. La journaliste continue, vous ne pensez pas qu'il y a des enfants battus qui souhaitent ne pas l'être, de même qu'il y a des femmes battues qui aimeraient d'autres relations? Elle répond, la preuve que non, c'est que lorsque l'on sépare un enfant de ses parents maltraitants, celui-ci se meurt de chagrin. De même, la femme battue, réfugiée dans les maisons d'accueil, veut revoir son mari. Encore une fois, les coups ne veulent pas dire absence d'amour. La journaliste continue. Alors concrètement, si un enfant nous dit « je suis battu », que faut-il faire? Il faut lui dire « ne le cherches-tu pas? Ne veux-tu pas faire des histoires avec tes parents ?» C'est l'enfant qui trouve la solution. Bon, là on se dit « ouh, ça commence à aller loin ». On parle d'inceste maintenant. Donc elle continue. « Dans l'inceste père-fille, la fille adore son père et est très contente de pouvoir narguer sa mère. » Et la journaliste dit, mais c'est la responsabilité du père dans l'inceste? C'est sa fille, elle est à lui, il ne fait aucune différence entre sa femme et sa fille, ou même entre être l'enfant de sa femme ou bien le père de sa femme. La plupart des hommes sont des petits-enfants, il y a tellement d'hommes qui cherchent dans leur femme une nounou, et des femmes qui les confortent dans cette idée-là, alors la responsabilité du père à ce niveau... Et elle laisse trois petits points. Et là, la journaliste dit, mais donc la fille est toujours consentante? Et Dolto répond, oui. Là, si vous avez eu des problèmes et des viols dans votre famille, je pense que vous méprisez Dolto et vous avez envie de brûler tous ces livres. Et elle continue donc, mais enfin, il y a quand même des cas de viol. Et Dolto répond, il n'y a pas de viol du tout. Elles sont consentantes. Les petites filles, on parle. Hein. Elle continue, le journaliste, quand une fille vient vous voir et qu'elle vous raconte que, dans son enfance, son père a, alors elle utilise un mot qu'on n'utilise pas bien, mais a coïté avec elle et qu'elle l'a ressenti comme un viol, que lui répondez-vous? Et elle répond, elle ne l'a pas ressenti comme un viol, elle a simplement compris que son père l'aimait et qu'il se consolait avec elle parce que sa femme ne voulait pas faire l'amour avec lui. Ensuite, et je vais terminer par ça, la journaliste dit, comment expliquez-vous alors le traumatisme de la fille si elle est consentante? Et Dolto répond, je vous l'ai dit, ce traumatisme vient du fait que sa sexualité ne peut pas se développer normalement puisque la sexualité se développe à partir de l'interdit de l'inceste. C'est l'interdit de l'inceste qui valorise la sexualité. Cet interdit intervient quand l'enfant désire l'inceste, c'est-à-dire environ entre 3 et 13 ans. Quand tout se passe bien, la sexualité se déplace et ne se fixe plus sur le père ou la mère. Sur le père ou la mère. Le fait qu'un enfant doit faire plaisir à ses parents est déjà une forme d'inceste. Or, c'est toute notre éducation qui est basée justement sur cette notion de plaisir. Bien des filles en arrivent à coucher avec leur père pour faire plaisir à leur mère. Va dans le lit de ton père, elle cite une maman. Va dans le lit de ton père, il aime les caresses et toi aussi, moi j'en ai assez. Donc là voilà, c'est juste, je pense, le truc le plus horrible que j'ai lu de Françoise Dolto déjà, que j'avais pas jamais bien lu, et de quelqu'un qui est respecté, alors qu'elle est totalement irrespectable. Vous faites ce que vous voulez des livres de Dolto, mais il faut arrêter de la citer en référence sur l'éducation des enfants. Elle justifie tout, hein. Il y a aucune jeune fille ne se fait jamais violer par son père. Les enfants qui sont battus, ils le cherchent. La femme battue, elle est entièrement responsable. Voilà, je sais pas pourquoi c'était jamais sorti avant. Jamais personne n'avait fait ce genre de choses sur Dolto, alors que régulièrement elle est citée comme référence pour l'éducation et pour aider les enfants en difficulté. C'est juste une horreur absolue.
Pour revenir sur Monsieur Matzneff, c'est juste pour dire que il y a l'Ange Bleu aussi hein, qui dépose plainte, donc c'est bien.
C'est quoi, l'Ange
Bleu ? Association contre la pédophilie. Ouais. Voilà, donc c'est une association de plus qui va l'attaquer, voilà. C'est plutôt bien. Je voulais aussi rappeler qu'il a eu le prix Renaudot, voilà, ça fait parler.
Ah, oui.
Et puis qu'il a été, on n'a pas parlé de Monsieur Toumont tout à l'heure, il a été fait chevalier de l'Ordre National du Mérite en 98 et officier des Arts et des Lettres en 95 par Jacques Toumont. Et puis là, il. Bah, oui,
tu sais, c'était
mais...
l'époque où tout bon, il disait qu'il fallait défendre la langue française.
Ouais, 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 ouais. Bah, ça nous a marqué quand même.
Ça nous a marqué à l'époque.
Ouais. Enfin, moi surtout, hein, parce que je vous rappelle que j'aime bien parler des fois avec des mots français inexistants pour la majorité de la population française. Enfin, en tout cas francophone. Oui, pour dire aussi que le ministre de la Culture, qui sert à pas grand chose, a aussi décidé de s'intéresser à l'allocation que ce monsieur reçoit depuis 2002. C'est l'allocation du Centre National du Livre. Alors, depuis 2002, il a touché 160 000 balles.
Ouais, il touche à peu près 6 000 euros par an.
C'est pas mal.
Ouais.
Après, hein, je remets pas en question l'allocation sur le principe, hein, mais c'est, du coup, ça pose des soucis, a priori, dans la tête de monsieur Franck Riester, qui se demande s'il ne faudrait pas mettre une commission, hein, pour déterminer la reconduction annuelle de l'allocation d'une manière générale, et pour qui que ce soit. Voilà.
Oui. Mais ça veut dire que quand il donne un écrivain comme ça, il lise pas ses livres. Parce que du coup, quand on lit ses livres, rien qu'avec le titre des livres, déjà on a des doutes. Hein. Donc c'est un petit peu bizarre quand même. Voilà.
Allez, il nous reste pas beaucoup de temps. Je vais être assez rapide pour vous dire qu'on attendait dans le secteur de la culture et du spectacle la fin de la circulaire Collomb. Je sais pas si vous vous souvenez de cette circulaire.
Mais ça a été annoncé la semaine dernière, la fin de cette circulaire.
Eh ben, non.
Et alors, c'est quoi qu'ils ont annoncé ?
Alors, on rappelle, la fin de la circulaire Collomb, c'était le fait que des organisateurs, organisatrices de spectacles, d'événements, des festivals, hein, tout simplement, ouais, allaient devoir payer les frais de police et de gendarmerie. Ce qui, évidemment, impactait, hein, tantinait quand même les budgets de certains événements, qui n'ont pas tous les moyens d'entreprises multinationales. Voilà. Bon, même si effectivement beaucoup de festivals, hein, sont subventionnés, mais enfin, donner des subventions pour aller payer...
les keufs, c'est bizarre.
Ouais, voilà. Et puis on peut penser que certains et certaines dans les organisations n'étaient pas forcément hyper motivés à se voir non plus encadrés par des forces de l'ordre constamment. Enfin voilà, bon. Ce qui a été annulé, c'est des petites choses à l'intérieur. Le Conseil d'État n'a pas annulé la circulaire, mais des clauses. L'annulation, ça porte sur l'obligation pour les organisateurs de verser un acompte au moment de la signature de la convention entre l'organisateur et l'État. C'est-à-dire qu'il fallait payer un petit bout avant pour être sûr que la police elle vienne jusqu'à ton festival. Tu vois, c'était un peu ça. C'était quand même un gros acompte, hein, puisque c'était de 60 à 80% du montant total de l'intervention prévue par les services de police et de gendarmerie. Et l'annulation, elle porte sur un deuxième point, sur l'obligation pour l'organisateur de payer le solde dans un délai maximum d'un mois après la fin de la manifestation. C'est-à-dire qu'en fait, les festivals vont toujours devoir payer, mais pas forcément avec un acompte et pas tout de suite forcément après le festival.
Alors pourquoi ils sont tous réjouis de ce truc ?
En fait, ils se réjouissent pas. Hein. Le Prodis, ouais, et le CMA sont pas super contents. C'est pas les seuls. Il y a les syndicats de la culture et du spectacle, ouais, que ce soit la musique, sur les festivals, qui se mobilisent. Mais en fait, non, c'est qu'une petite partie. Ouais. Donc c'est bien parce que ça évite de sortir trop vite des sous de la trésorerie. Mais s'il faut quand même les sortir au bout d'un moment, ça pose quand même encore quelques questions. Voilà.
Oui, on remerciera Gérard Collomb alors pour cette belle
oui, grâce
initiative.
À cette initiative, il se fait connaître encore un peu plus à travers la France.
Il a jamais aimé trop la culture, c'est peut-être ça.
Je sais pas.
Il aime bien la répression, il aime bien la police.
Il y a peut-être plus d'action, je sais
pas.
Alors sinon, juste, on a quelques minutes, hein, pour juste rire un peu, parce que là aussi, il n'y a pas de petit profit. Allez, on va parler un petit coup de Carlos Ghosn, qui nous a fait une évasion à la hollywoodienne. C'était le 29 décembre, il s'est barré du Japon, pour faire simple, et il a atterri où ? Au Liban. Alors, on en sait évidemment un tout petit peu plus, d'autant plus que monsieur Carlos Ghosn a donné une conférence de presse, mais dès le départ, il a expliqué qu'il n'était pas là pour expliquer comment
il s'était
enfui. Bon, c'est intéressant quand même, puisqu'on apprend que c'est une société qui est basée à Dubaï, qui a payé et organisé sa fuite.
En payant des mercenaires, hein, d'entreprises de mercenariat privé, là. Des barbouzes en fait.
Oui, mais des mercenaires, on dit.
Voilà.
Donc il y a une enveloppe de 350 000 balles quand même qui était sortie pour l'allocation d'un bombardier, pour faire montrer Carlos dedans.
Pour un bombardier, c'est un avion, c'est pas un truc
oui,
qui jette
oui,
des bombes.
Non, mais les gens, je pense, que savent que c'est un bombardier. Oui, parce que du coup, les enquêtes des journalistes quand même ont été loin, et donc on sait même que c'est un bombardier Global Express immatriculé TCTSR, si vous voulez tout savoir. Donc on sait un petit peu aussi une partie de l'argent, mais en tout cas, ce qui est bien aussi, c'était cette interview absolument magnifique, enfin cette interview, cette conférence de monsieur Carlos Ghosn. C'est marrant. Alors d'ailleurs, on peut penser qu'il y a des gens qui réagissent un peu comme Marine Le Pen, qui estiment que le gouvernement français n'a rien fait pour les droits de la défense de monsieur Ghosn, qui est un Français.
C'est alors, j'ai ouï dire que Mélenchon avait lui aussi donné son petit coup de soutien au patronat. Et il y a pas, voilà, on comprend que ce mec il soit pas d'extrême gauche, puisque la lutte des classes ça lui parle pas. Par contre, le nationalisme ça lui parle beaucoup plus.
Oui, ben oui, parce que monsieur Carlos Ghosn a expliqué quand même dans son interview que là, du fait qu'il aimait le Japon, quand même, mais qu'il avait rien fait. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait. S'il y a un complot contre lui de la part des dirigeants de Nissan, et que de toute façon, depuis qu'il est plus là, c'est la cata, tout fout le camp chez Renault et chez Nissan, que les pertes s'accumulent et que, en fait, grâce à lui, les entreprises allaient très bien.
Ce qui était totalement faux, parce qu'on rappelle que ça avait commencé à baisser quand il était là, en fait.
Donc voilà, c'est
et son mariage, tout ça, la fête,
c'est ce qu'il a expliqué. Alors il expliquait qu'il avait atterri au Liban pour des histoires pratiques, logistiques, si vous voulez. Bon, nous on avait tendance tout de suite à penser qu'en fait il avait trouvé un certain nombre d'appuis dans un pays dans lequel un certain nombre de manifestants et manifestantes sont descendus dans la rue pour critiquer, accuser les pouvoirs en place, les politiques d'une manière générale, pour dire qu'il y a une corruption énorme dans le pays et que ça suffit. On se dit que M. Ghosn peut-être trouve sa place milieu de ses amis.
Il y a Jean Blatt là qui lui a dit qu'il pouvait être ministre. Enfin voilà, je pense qu'il a des amis haut placés en politique au Liban a priori.
Voilà, donc on rappelle, hein, monsieur Carlos Ghosn a 4 inculpations sur le dos, que le Japon veut le récupérer. Alors avec le Liban ça va être difficile, mais voilà, on peut quand même se dire que ne pas vouloir rester en tôle, nous entendons bien, mais que c'est plus facile quand même quand on a beaucoup d'argent et beaucoup d'amis et beaucoup de réseaux et beaucoup de puissance. Ouais, parce qu'il suffit pas juste d'avoir de l'argent. Non. Il faut avoir les connexions, les réseaux, pour ensuite pouvoir organiser quand même un tel départ. C'est pas rien quand même. Bon.
On notera l'interview ultra complaisante de Léa Salamé, je crois, elle s'appelle comme ça, sur
une. Pas tout à fait, mais presque.
Léa Salamé.
On s'en fiche.
On fout. Elle, l'horreur absolue du journalisme de complaisance. Une interview qu'elle a donnée dans la radio dans laquelle elle travaille, du service public. Une horreur absolue d'anti-journalisme, hein, de léchage de bottes. C'est juste atroce. C'est intéressant, hein, ce patron qui détourne de l'argent. Hein, on rappelle que quand il a été arrêté au Japon il y a un peu plus d'un an, toutes les affaires sont, enfin une partie des affaires sont sorties dans la presse, et il y a vraiment des faits accablants, hein, contre lui, sans parler de son mariage qu'il a fait financer, de ses fêtes, du financement de la fête par l'entreprise et non pas par lui, et son anniversaire, enfin, toutes ces choses là
à Versailles,
ouais. Et là non, il est innocent, il est blanc comme neige, et comme c'est un patron, et ben tout le monde l'aime. Enfin, les politiques, hein, de droite comme d'extrême droite à l'extrême gauche. Du coup, c'est quand même pas mal le grand écart, dis donc.
Voilà.
Qui peut avoir le soutien à la fois de Le Pen, de Mélenchon, de Macron? Je crois qu'il a toute
la question politique. C'est de se demander, sinon d'une manière extrêmement importante, c'est là, je veux dire, tous et tout ensemble, on va essayer d'y réfléchir un petit coup, si vous voulez bien. C'est qui à Hollywood va jouer le rôle de Carlos?
Ouais, parce qu'il a signé avec Netflix, il paraît. C'est une légende. Hein, on n'a pas le monde. Enfin, il y a des bruits qui courent, on n'a pas le contrat.
Mais bon, s'en fiche, c'est juste que c'est quand même. Voilà, on s'attend à ce qu'il y ait un film sur.
C'est le nouveau.
Comment il a traversé le monde?
Le nouveau Papillon.
Dans son bombardier.
Tu te rappelles de Papillon, là, qui s'évade de prison, c'était joué par Steve McQueen, je crois.
Oui.
Et ben voilà, c'est un peu le nouveau Papillon moderne. Sauf qu'avant c'était un bagnard, un mec qui avait de la gouaille et de la classe. Là c'est juste un patron qui a de la thune. Le monde moderne est moins marrant qu'avant.
C'est un roman sinon, mais après bon.
Oui. Non mais c'est un roman, Papillon, c'est l'histoire qui fait. C'est Papillon, attends.
Bon, sur ces considérations plus légères, nous allons vous laisser pour aujourd'hui.
La suite, je sais pas ce qu'il y a une suite.
Nous allons vous laisser donc avec de la musique, avec les bandes de continue de Radio Canu. On va se retrouver jeudi de la semaine prochaine. Bonne lutte, bonne manifestation, et voilà.
Donc on rappelle, samedi 14h, place Maréchal Lyautey, ouais. Et demain 11h, j'ai dit quoi tout à l'heure
Et on n'a même pas souhaité la bonne année à nos auditeurs et nos auditrices.
Enfin, on est le 9.
Bah, il paraît qu'on est jusqu'au 15 février. C'est Madame de Rothschild qui le dit.
Oh putain. Bonne année à toutes et à tous. Bonne année de lutte et de résistance.
Voilà. Bon, monsieur Rebellion.
Si Madame de Rothschild le dit, non.
Ouais,
fait.
Sinon, donc, je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, vous retrouverez toutes les infos sur le site de Rebellion pour les lieux de rendez-vous, les horaires et tout ça. Ciao.